Fréquence protestante, le Midi Magazine, Malou Bernasconi.
Bonjour, comme Antoine vous l'a annoncé, je suis donc avec Jean-Pierre Le Goff. Jean-Pierre Le Goff est philosophe, écrivain, sociologue au CNRS. Il est très connu, entre autres, pour avoir écrit un livre sur mai 68, L'héritage impossible. On en parlera puisque c'est un des éléments aussi de ce livre-là. Et ce livre s'appelle donc La gauche à l'épreuve, 1968-2011. Alors, Jean-Pierre Le Goff, merci d'être avec nous. Et j'ai une première question. Dans ce livre, vous faites une étude critique de la gauche, de ses valeurs, de ses pratiques. Or, actuellement, on pourrait dire que la gauche a peut-être le vent en poupe dans ce monde en pleine crise capitaliste. Alors, est-ce que dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, la gauche peut encore proposer quelque chose? Et si oui, quoi?
Il faut espérer qu'elle puisse proposer quelque chose dans le jeu démocratique et qu'elle fasse surtout des propositions crédible sur la question de ce qu'on appelle la justice sociale. Cela étant dit, je pense qu'il faut bien regarder qu'elle peut faire. Elle peut faire un certain nombre de propositions, mais moi je me suis intéressé à ce que je dirais l'arrière-fond du politique, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler son creuset idéologique doctrinaire et plus largement l'éthos sur lequel elle s'appuie depuis l'éthos de la société sur lequel elle s'appuie depuis plus d'un quart de siècle. Donc et c'est ce corps de doctrine, si vous voulez, c'est qui me semble en morceaux, quoique peut faire des tas de propositions, mais ce qui a constitué à un moment donné la dynamique historique de la gauche depuis, pour le dire schématiquement, le 19e siècle, cette dynamique est aujourd'hui épuisée. C'est du moins l'hypothèse de mon livre. Pourquoi ? Parce que je dirais que les représentations qui structuraient une certaine identité de la gauche, qui n'étaient pas simplement des idées au sens intellectualiste du terme, mais qui engageaient des hommes dans l'action, eh bien, ces significations-là, elles ne fonctionnent plus. J'en cite quatre dans mon livre. Une certaine vision de l'histoire en marche vers son accomplissement, d'une certaine façon. On sait que le communisme représentait la pointe extrême de cette conception, mais qu'elle était plus large. Le socialisme, d'une certaine façon, y participait. Deuxième idée, si vous voulez, force qui structurait cette identité, c'est la question d'un sujet historique central qui était la classe ouvrière, avec une forme de messianisme, on va dire, puisque c'était cette classe à laquelle on conférait une sorte de mission historique, si vous voulez. Bon, qui amenait, là aussi, le communisme était la pointe avancée, mais l'idée de socialisme, c'était le dépassement de l'existant grâce à ça. Et il y avait la réalité d'une dynamique historique réelle qui était liée à l'existence d'un milieu ouvrier, d'un monde ouvrier. Ce n'était pas, là aussi, que des idées. Bon. La troisième thème clé, si vous voulez, de sa doctrine était liée au fait que, l'appropriation collective des moyens de production était le levier fondamental pour changer de société. Appropriation collective avec plusieurs versions, soit par les collectivités auto-organisées dans la société elle-même, là on va toucher le thème autogestionnaire, soit par l'État, avec une culture du socialisme plus étatique ou jacobin, si on veut. Mais dans tous les cas, c'est par l'appropriation collective. Puis il y a un quatrième thème, si vous voulez, que je rajoute, qui n'est pas simplement lié au socialisme, mais ce thème a irrigué la gauche jusqu'à aujourd'hui, qui est une certaine conception rousseauiste de l'homme. C'est-à-dire que l'homme naît naturellement bon, c'est la société, ce sont les institutions qui, d'une certaine façon, l'empêchent de réaliser cette bonté naturelle. Vous trouvez ça depuis la Révolution française, vous trouvez ça très explicitement dit et expliqué, si l'on veut, par Saint-Just, d'une certaine façon, et la gauche a baigné dans cette idée-là. C'est d'ailleurs une des raisons, je ne dis pas la seule, bien évidemment, qui fait que la gauche a eu beaucoup de difficultés à assumer des fonctions que j'oserais dire répressives, si vous voulez. Parce que précisément, il y avait cette...
L'homme étant bon, naturellement.
Voilà. Et la sécurité, les difficultés, il y a cet arrière-fond. Alors, le problème que je me suis posé dans ce livre, c'est qu'est-ce que sont devenus cette espèce de corps, si vous voulez, doctrinaire imaginaire, là, enfin, que j'appelle
de représentation,
qui a traversé le XXe siècle. Il s'est heurté à un certain nombre de réalités historiques et de bouleversements sociétaux, pas simplement économico-sociaux, qui ont mis en morceaux cette doctrine. Simplement, la gauche ne l'a jamais reconnue et elle continue de faire semblant.
C'est ça. Et vous voulez qu'on cesse de faire semblant. Alors j'ai deux questions à la suite de ce que vous venez de nous dire. Historiquement, comme vous le disiez, la gauche a comme mission de représenter, de défendre le prolétariat ou la classe ouvrière. Alors qu'est devenue cette mission et qu'est devenu aussi le monde ouvrier? Parce que je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées. Il y a la transformation profonde du monde ouvrier et puis la mission de la gauche. Est-ce qu'il y a une nouvelle mission? Que doit-elle défendre aujourd'hui sur ce plan-là?
Alors, je pense qu'en ce qui concerne le monde ouvrier, il y a une date un peu symbole qui est 1936 en France, avec ces images, on les a peut-être un peu tous en tête, qui passent souvent à la télévision et qui viennent du cinéma, qui sont ces ouvriers à casquette levant le poing, occupant les usines, etc. Donc, il y a une réalité d'un moment donné où la doctrine de la gauche se concrétise. Il y a une vie, une dynamique. Je dirais même qu'il y a une espérance, d'une certaine façon, du dépassement de cette société. Pour moi, c'est le point, si vous voulez, nodal de tout ça. Bon, le problème qui va se passer très vite, c'est que 36, je ne parlerai pas des désillusions qui vont arriver très vite, mais au lendemain de la guerre, je dirais plus précisément avec la période de reconstruction, et plus précisément encore au tournant des années 50 et 60, nous entrons dans une nouvelle société qui n'est plus une société où l'affrontement de classes, où avec l'idée qu'une classe doit dominer l'autre et écraser l'autre. Nous sommes dans un développement économique et social avec l'idée de progrès, où les négociations collectives ont lieu, où il y a des compromis sociaux entre les partenaires sociaux, où les comités d'entreprise se sont développés et où, je dirais, arrive aussi une nouvelle mentalité dès la fin des années 50 et au début des années 60, ce que certains appelaient la civilisation des loisirs. C'est-à-dire des loisirs qui ne ressemblaient pas à 1936 où la dimension collective en 1936 était très importante, où arrive une dimension plus individualiste des loisirs. C'est-à-dire l'individu, d'une certaine façon, se détache de ses communautés premières d'appartenance, si je prends le monde ouvrier, qui était le quartier ouvrier traditionnel, qui était les corons dans les mines, avec ses valeurs de sociabilité, mais aussi ce que faisait peser une communauté sur les individus, le regard des autres,
le contrôle,
etc. Bon, tout ça, si vous voulez, vous avez un basculement vers autre chose. Les logements changent. On passe de la cité ouvrière dans laquelle il y avait une forme de solidarité d'éthos très particulier, avec les cités HLM, qui d'ailleurs, du point de vue matériel, il faut jamais l'oublier, représentent un progrès, c'est-à-dire énorme, l'eau chaude, l'eau froide, une luminosité par rapport au taudis, etc. Donc, cela dit,
parfois des ascenseurs assez vite,
On n'est pas du tout dans la vision des cités d'aujourd'hui. Simplement, ce qu'on y gagne du point de vue économique et social, et puis, je veux dire, bien-être matériel et physique, disons, on le perd aussi en solidarité, si vous voulez. Donc, on a véritablement une nouvelle société. Et puis, se passe ce phénomène des week-ends, qui pose une question terrible, au monde ouvrier. C'est-à-dire que les loisirs, eh bien, c'est pas simplement de l'éducation, vous voyez, dans ces collectifs ouvriers qui ont été vivants, où il y avait des clubs, des associations, des...
L'éducation populaire,
Eh bien, il y a la télévision, il y a la radio, il y a la musique, il y a le cinéma américain, il y a le fait qu'il y a les week-ends, et qu'on prend son week-end, on fait du camping, etc. Donc ça commence déjà à ce moment-là. Arrive mai 68, qui est très important, parce que mai 68 fait revivre une image de 36, alors que la réalité,
les grèves
et l'occupation d'usines, donc on peut dire c'est du 36 qui recommence. Oui. Or, en réalité, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que la société, comme je viens de le dire, s'est considérablement transformée, et puisque arrive un nouvel acteur inédit historiquement, qui est la jeunesse comme acteur social, sur une tranche d'âge post-adolescente étudiante. D'ailleurs, depuis, ça ne nous a jamais quittés. Mais il y a l'idée que ça peut revenir comme avant. Alors ça, c'est très important. Et arrive ensuite 70, le milieu des années 70 plus précisément,
75,
où là, il y a véritablement un basculement très important par rapport à la période qui s'est développée depuis la guerre. La dynamique de l'expansion est mise en question sous le double mouvement d'un questionnement issu de mai 68, mais également sur la fin des Trente Glorieuses, et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est le chômage de masse. D'où la classe ouvrière, si vous voulez, est directement, l'ancien monde ouvrier est directement percuté à la fois par ces évolutions culturelles et sociétale, et par la crise économique. La valeur travail, qui formait la fierté, qui donnait l'estime de soi dans ce monde, eh bien, elle commence à être...
Érodée, on peut le dire comme ça ?
Non, elle est... Oui, érodée d'une certaine façon, mais je pense que avec une souffrance terrible, c'est-à-dire que c'est pas mon idée, n'est pas de dire c'est formidable. En même temps, ce qui faisait l'estime de soi dans le fait d'être autonome, de gagner sa vie, parce que pour moi le travail n'est pas qu'une question économico-sociale, c'est une question anthropologique où l'individu, à travers le travail, je veux dire, se confronte à la réalité, entre dans des rapports de coopération, d'entraide, mais aussi de conflit, et d'une certaine façon se forge par cette identité. Il est utile à la collectivité. La fin du travail, enfin ce que certains socialistes appelaient la fin du travail, on l'a oublié, l'utopie d'une société. Eh bien, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dramatique qui va déchirer le tissu social de façon considérable, et on est toujours dedans.
On est toujours là-dedans. Avec le chômage. Alors, je voudrais revenir encore sur deux, trois choses que vous avez dites. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement ce que vous appelez, que vous avez appelé dans un livre, mais que vous reprenez ici dans un chapitre, l'héritage impossible de mai 68, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce moment de rupture qui est pour vous très important au XXe siècle, et vous dites que mai 68 a laissé un héritage, mais il était impossible à reprendre. Voilà.
Oui, voilà. Alors, je pense que d'abord, il faut distinguer l'événement 68, c'est un événement historique extrêmement important. Certains, je ne suis pas loin de le penser, envisagent que sa portée a été presque aussi importante que la Révolution française. En tout cas, il y a un événement historique que, je dirais, n'appartient à personne. Il manifeste, je dirais, c'est son côté positif, entre guillemets, des aspirations nouvelles. Aspirations nouvelles à participer des individus et de la société face à un État, rappelons-le, qui était quand même très hautain et pour qui la société, c'est l'État domine la société. Donc là, il y a véritablement une révolte de la société des individus contre cet État, et je dirais un peu le modèle jacobin avec ce qu'il avait de centralisateur, pas simplement de centralisateur, mais dans son rapport un peu problématique à la société. Ça, je dirais, d'une certaine façon, on pourrait dire, encore faudrait-il préciser, que c'est le bon côté, entre parenthèses, de 68. Mais ce bon côté, il est mêlé d'emblée, y compris dans l'événement, à une forme de catharsis globale, où la société s'interroge sur ce qui s'est passé depuis la guerre. C'est-à-dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1968, c'est extrêmement court. Nous sommes dans un temps beaucoup plus long par rapport à 68 aujourd'hui. Il y a un peu plus de 20 ans, enfin, il faut quand même se représenter ça, où la société française a été considérablement bouleversée, où on a assisté à une reconfiguration des principales classes sociales, classe ouvrière, paysannerie, où une nouvelle couche moyenne est apparue à ce moment-là, porteur d'aspirations nouvelles. Et dans ce moment-là, la société qui se révolte en mai 68 avec évidemment la commune étudiante, s'interroge sur ce qui s'est passé. Voyons, je prends souvent ce voyons, sommes-nous heureux? Voyons, sommes-nous heureux?
Certes, la production, la consommation, pourquoi faire?
Donc il y a une forme...
Une question, quoi.
Il y a une question, mais cette question est terriblement et d'emblée embrouillée, ramenée dans des catégories qui sont déjà préexistantes et empêche véritablement de déboucher sur une forme de reconstruction responsable, j'allais dire. De Gaulle, à sa façon, avait vu que, alors qu'il n'était pas du tout d'une sensibilité, je dirais c'est à l'inverse de 68, mais avait vu qu'il y a quand même quelque chose en 68 et qu'il faut y répondre. Et je pense que sa réforme sur laquelle il a été battu en 1969, était l'idée que essayer de traduire institutionnellement et de façon responsable dans une république rénovée, d'une certaine façon, une démocratie, simplement l'organiser. C'est la fameuse réforme du Sénat, on pourrait développer, etc. Donc, c'est en ce sens que je dis, contrairement à ce qu'on dit, bien évidemment, la gauche, mais ça n'appartient pas à la gauche. Relisons aussi le discours de Pompidou au moment de la révolte étudiante sur la révolte contre le machinisme, qui est très, avec un aspect, je dirais, Malraux aussi. Il faut relire Malraux. Malraux, un discours extraordinaire en juin, je crois que c'était au Palais des Congrès, sur la crise de civilisation qui est connue, l'ouverture, etc. Donc, voilà. Alors, je distingue, si vous voulez, ce moment-là, qui pour moi est un moment de catharsis. Démocratique, certes, en sachant que dès ce moment-là va naître quand même un aspect de l'héritage impossible, c'est-à-dire une société qui s'opposerait totalement à l'État, c'est-à-dire qui n'aurait plus de verticalité et qui pourrait d'une certaine façon s'auto-organiser à l'horizontale, si j'ose dire. On va d'ailleurs trouver déjà le modèle de réseau, tout doit être immédiatement transparent, et si on peut se passer de l'État, ma foi, l'État, alors
tant
évidemment,
mieux,
à l'époque, si vous voulez, c'est très transgressif, je dirais que ça a un sens et crée une dynamique, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous avez un État fort, parce que les institutions tiennent encore la route. Et la question qu'il faut immédiatement se poser, c'est qu'est-ce que devient cet esprit abattardi, devenu conformisme nouveau, dans une situation où l'État et les institutions se sont passablement érodés sur l'effet même de la révolte. Ça tourne, si vous voulez, à des injonctions paradoxales en direction d'une partie de la jeunesse. Révoltez-vous, soyez rebelles, ce que Philippe Muret appelait les mutins de Panurge. Donc, si vous voulez, alors l'héritage impossible, pour moi, il va être particulièrement manifeste dans l'après-mai. Il consiste, là aussi, en un certain nombre de représentations clés, je peux essayer de les distinguer. Premièrement, l'exigence d'une autonomie érigée en référence absolue. Ce n'est pas la question du désir d'autonomie, y compris individuel et collectif, qui est en cause. C'est son érection, si je puis dire, en un principe absolu. Sans référent vis-à-vis duquel cette autonomie pourrait se situer, et je dirais également sans verticalité. Premier point de cet héritage historique. Alors évidemment, le deuxième point découle de ce premier, c'est que c'est une vision de l'État et des institutions comme synonyme, et je dirais aussi de l'autorité, État, institution, autorité, comme synonyme de domination, d'oppression ou d'aliénation. Vous voyez, les deux vont de pair. Ce qui veut dire que, occuper dans l'après 68 des postes de responsabilité, y compris d'ailleurs dans les partis de gauche, y compris dans les syndicats, puisque c'est plusieurs vagues, si vous voulez, Je distingue trois moments, je peux pas rentrer trop dans le détail.
Faut lire votre livre.
Voilà. Il y a trois moments particuliers. où cet héritage va se répandre par vagues successives dans la société, atteindre l'ensemble des institutions, et notamment deux institutions clés, qui étaient liés à la transmission de l'héritage, si je puis dire, qui s'appelle la famille et qui s'appelle l'école, qui vont se porter très mal, si vous voulez, puisque ce n'est pas pareil d'être éduqué et être né dans une famille dans les années 70, avoir été à l'école dans les années 60. La situation est radicalement différente, si vous voulez. Les jeunes vont être amenés, à mon sens, dans les années 70, à errer dans un champ de ruines, d'une certaine façon, avec des enseignants dont une partie d'entre eux, pas la totalité bien évidemment, ne peut pas transmettre un héritage pour la bonne raison, c'est que cet héritage, ils le rejettent eux-mêmes. Bon, voyez la difficulté.
Et la famille aussi, par moment.
Et alors, la famille commence à se décomposer, d'une certaine façon. Alors, on voit bien comment il y a une critique, à un moment donné, de l'autoritarisme, la famille traditionnelle centrée autour de la figure du père. On pourrait parler du féminisme, qui était, à mon avis, un rôle clé, avec des aspects, évidemment, de libération, mais des aspects, en même temps, hautement problématiques. Ce n'est pas simplement une dimension de catharsis, c'est que, véritablement, il y a une dimension anthropologique qui s'engage. N'hésiterai pas d'ailleurs à parler d'attaque anthropologique. Alors bon,
contre l'autorité masculine.
L'autorité masculine, l'autorité et la verticalité comme synonyme de domination. La question qu'il faut se poser, pourquoi je parle d'anthropologie, si vous voulez, c'est que pour moi, mais ça évidemment, ça se discute, mais ça fait partie de notre héritage.
Bien sûr, mais il faut discuter,
c'est
pour ça qu'on est là.
Il faut en discuter, mais ça fait partie de notre héritage, et c'est quand même, normalement, une discussion devrait pouvoir se situer par rapport à lui. C'est que la structuration individuelle, de même que la structuration collective, pour moi, passe précisément par des référents. ce n'est pas l'autonomie qui, c'est pas sois jeune, parle, etc. Tu es libre, tu es ton propre sujet autofondateur. C'est que ça passe par une transmission que tu vas pouvoir rejeter ou pas, mais elle a lieu. Ça passe par quelque chose qui, d'une certaine façon, te transcende comme individu. Au-delà même de la religion, je veux dire, la religion étant dans cette dimension anthropologique, un aspect, à mon avis, essentiel, bien évidemment, aussi. Mais il n'est pas le seul. Je veux dire, bon, et l'illusion post-68arde est celle-là. D'un sujet autofondateur et d'une société autofondatrice, si vous voulez, dans lequel l'État est rejeté, et à ce moment-là, je pense, oui, moi je parle d'une période courte, mais qui a été importante, de nihilisme. De nihilisme dans le sens...
Sur tous ces plans-là.
Oui, dans le sens où la critique culturelle, sociale et culturelle, qu'il pouvait se comprendre par rapport à l'État, aux institutions, avec leurs aspects bureaucratiques, autoritaristes, c'est pas pareil, l'autoritarisme et l'autorité. Donc il y a eu des aspects évidemment libérateurs. Mais il y a eu un moment de basculement de la société vers une forme de nihilisme où ce n'était pas simplement l'autoritarisme, l'oppression de l'État, la domination qui était évidemment tout à fait réelle, c'était les principes mêmes anthropologiques du vivre ensemble, pour faire très court.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Malou Bernasconi.
Alors nous sommes donc aujourd'hui avec Jean-Pierre Le Goff, nous parlons de la gauche à l'épreuve, on a commencé à analyser 68, ce qui s'est passé, quel a été cet héritage impossible, comment à la fois l'État, l'autorité, la famille, l'école ont été remises en question et effectivement avec une, comme Jean-Pierre Le Goff le disait justement, une espèce d'absence de référence, de référent ou de référence et puis aussi une critique d'une transmission quelle qu'elle soit. Donc comment est-ce qu'on peut, à la suite de ça, se rattraper, j'ai envie de dire ? Et est-ce qu'on s'est déjà rattrapé aujourd'hui ? Après, je vous demanderai ce que le politique, le domaine politique en général, peut faire là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer quelque chose ? Parce que des analyses comme les vôtres, ça se fait dans d'autres domaines. On dit la famille fonctionne plus, l'autorité fonctionne plus. Donc, c'est une catastrophe pour les générations. Puis, tous les gens qui disent ça sont traités un peu de... Oui, de gens qui surannés, enfin, qui ne comprennent plus ce qui se passe aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà, tout à fait dringard, hein, comme vous le soufflez. Alors, comment est-ce qu'on peut déboucher à partir de cet abandon, de cette autonomie, principe absolu, etc.
Alors, je pense peut-être que sur le constat, il faut d'abord prendre, à mon avis, prendre la mesure des bouleversements qui sont opérés dans la société depuis un quart de siècle. On a parlé de mai 68, mais si vous voulez, c'est ajouter une chose terrible qui est le chômage de masse. C'est-à-dire que la conjugaison d'une crise culturelle ouverte en mai 68 avec la fin des Trente Glorieuses et le chômage de masse a accéléré la déstructuration anthropologique du tissu social, si vous voulez, pour le dire de façon très schématique. Donc c'est ça. Et notamment, les phénomènes auxquels on assiste de passage à l'acte, c'est-à-dire vous me direz, ça existait au 19e, mais là, on a quand même des phénomènes très étranges, si vous voulez. La police est confrontée, ou les préfets sont confrontés quand même à des actes d'ultra-violence. Je pense que c'est lié à ces bouleversements. Alors évidemment, il y a des cas individuels avec des psychologies individuelles.
Bien sûr, mais ça, il y a toujours eu.
Il y a toujours eu, mais il y a un cadre déstructuré. Les anciens lieux de solidarité qui étaient les villes, les bourgs, ou les collectivités de travail, où il y avait une solidarité,
un ethos,
les quartiers ouvriers, tout ça a été très mis à mal, à la fois par le chômage de masse et la désindustrialisation, et puis aussi par la crise de mai. La famille, si vous voulez, qui était quand même un lien de solidarité, qu'on le veuille ou non, on appelle ça maintenant famille monoparentale ou recomposée, ce qui est, à mon avis, est un peu angélique, dans la mesure où la recomposition en question se paie beaucoup de souffrance. Donc, on a véritablement affaire à un travail, à mon sens, on est arrivé à un point limite pour un travail de reconstruction. Mais je crois que les politiques, en particulier, devraient se saisir de l'ampleur. On ne va pas s'en sortir, ça sera long. Pourquoi ça sera long? Parce que 30 ans de bouleversement de la société française, qui touche pas simplement à des mécaniques économiques, économico-sociales, mais qui touche à ce que j'appelle l'éthos de la société, eh bien, ça ne se reconstruit pas, excusez-moi, en deux coups de cuillère à peau, ni simplement avec du volontarisme politique, bien qu'il faille évidemment du volontarisme politique, ça c'est certain. Alors, que peut-on récupérer? Je dirais que le problème, au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est aussi l'hypothèse de mon livre, je pense que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle historique, c'est-à-dire à la fin de cette décomposition, encore que, faut-il tout de suite préciser, que pour arriver à la fin de quelque chose, comme disait la philosophe Hannah Arendt, il faut qu'il y ait un autre commencement. Nous n'avons pas cet autre commencement.
On n'a pas le commencement.
Nous n'avons pas le commencement.
Le commencement
et
de la
je dirais
suite,
que finalement, nous n'en finis. C'est une décomposition qui n'en finit pas. Nous voyons comment l'ancien et 68, c'est déjà de l'ancien. Mmh. Cette dynamique contestatique, transgressive, elle est épuisée.
C'est fini.
Elle est épuisée. Sauf que quand vous écoutez les grands médias audiovisuels, enfin ça dépend lesquels, parce que les médias sont très partagés maintenant, eh bien vous avez encore ce que j'appelle les héritiers impossibles, qui sont jeunes, c'est un peu l'image que je reprends sans cesse, d'Astérix et d'Obélix, eh bien ces jeunes sont nés un peu comme Obélix, ils n'ont pas besoin de prendre la potion magique, si j'ose dire, puisqu'ils sont nés dedans, et que pour eux c'est le naturel de la société et du monde, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un nouveau conformiste et au contraire ont des postures critiques, excusez-moi, que j'appelle d'affaissement, c'est-à-dire que de transgressions qui n'en sont pas, c'est-à-dire pourquoi? Parce que la transgression se paie d'un tragique. Et que là, c'est en gros, excusez-moi l'expression, avoir le beurre à l'argent du beurre, la posture du révolté, etc., tout en n'ayant pas le prix à payer. S'il y a une différence de génération, c'est que je pense qu'un certain nombre de 68ers, j'en ai fait partie, sont allés au bout et ont payé très cher. C'est pas simplement ceux qui se sont reconvertis au sein du Parti Socialiste. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis sur la touche. Il y a eu beaucoup de drames humains dans cette aventure.
Si on l'oublie beaucoup.
On l'oublie complètement.
Dans les commémorations.
Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui se sont convertis au mitterrandisme dans les années 80, ont occupé les postes de pouvoir, et ce sont eux les vainqueurs. Et l'histoire a été racontée par des vainqueurs, pas par les vaincus, si vous voulez. Et que à ce moment-là, que dire aux jeunes générations qui venaient après? Ça a été très dur parce que ils ont été confrontés, et notamment dans les familles, je pense à certains ouvrages qui depuis sont parus, qui décrivent un peu cette difficulté. Alors, Comment faire pour reconstruire? Je pense qu'on est arrivé quand même à une voie d'épuisement. Les grands médias audiovisuels nous donnent une image fausse de l'ensemble de la société. Quand vous écoutez un certain nombre de radios, pas toutes, quand vous écoutez la télévision, pas toutes les chaînes, mais enfin, vous avez l'impression, j'ai l'impression, pour avoir connu le militantisme d'autrefois, que j'ai affaire à des journalistes qui ne sont plus des journalistes, mais des militants.
Des militants qui n'interrogent de quoi, alors plus.
Des militants de la bien-pensante, nouveau post-68 tard de, excusez-moi, malheureusement pour moi, mais de gauche.
D'accord.
Un conformisme de gauche. Il y a un conformisme de droite, je pourrais en parler aussi. Mais il y a un conformisme de gauche. Mais non, pour eux, c'est naturel. Et quand ils interrogent, ils agressent, ils n'interrogent plus, ils ne s'effacent plus. D'ailleurs, regardez une chose extraordinaire. Pour les journalistes, vous avez beaucoup de publicité où, telle émission, ce n'est pas, c'est le journaliste qui est en photo.
Ah oui.
Je sais pas si vous avez remarqué, c'est lui, le moi, c'est lui.
Et celui
donc,
qu'on
le
vient
contenu,
écouter.
Le contenu de ce qui est dit est secondaire par rapport à celui qui se positionne. Bon. On est dans cette logique-là. Bon.
Est-ce que c'est pas le même besoin de communication qu'ont les politiques? Pour revenir sur le terrain, vous dites que le monde politique est un monde surtout communicant, plus que d'idées. Est-ce que la presse, enfin, les médias n'ont pas repris à leur compte, de façon parallèle, je sais pas, ce besoin de communication sur la personne, pas sur l'information.
Mais ce besoin de communication sur la personne intervient sur fond de décomposition de l'ancien imaginaire historique et une valorisation narcissique. Mais je pense que cette valorisation narcissique a lieu dans des sociétés où l'individu s'est déconnecté des collectifs et s'est déconnecté d'une vision à long terme et de l'héritage historique, si vous voulez, pour le faire très clair. Donc, une survalorisation du moi, qui est un symptôme plus qu'une solution. Alors, deux hypothèses. Il y a ce que j'appelle les rhéteurs de la postmodernité, qui consistent à ne pas en finir avec des commentaires du surcommentaire, des évolutions, qui, en même temps, disant « je constate », n'est-ce pas, « je ne prends pas de jugement de valeur », et qui nous racontent tous les jours que, malgré tout, c'est bien les tribus, avec des phénomènes, faut bien les comprendre, etc. Et on a, dans cette espèce de soupe qui fait du surf sur des évolutions hautement problématiques et qui n'ose pas attaquer de front les problèmes anthropologiques, philosophiques, et même politiques que ça pose. Les politiques ont suivi ce que je reproche, entre guillemets, aux politiques. Comme ils n'ont pas affronté la crise de leur propre doctrine, d'une certaine façon, ils ont fait du surf sur les évolutions problématiques de la société française. Et j'ajouterais même une chose. Dans la période que j'analyse, je suis forcé de constater que la gauche a été à l'avant-garde de mutations sociétales et culturelles problématiques. Non seulement elle a été à l'avant-garde, mais de fait, vous pouvez prendre le problème comme vous le voulez, le retourner dans tous les sens en disant c'est toujours plus compliqué, mais globalement, la gauche a été le chantre de ces évolutions-là jusqu'au moment où une bonne partie de la droite a repris ces évolutions culturelles problématiques, notamment dans le domaine des mœurs, mais pas simplement, dans le domaine d'un surf aussi sur des évolutions immaîtrisables. Comme le monde est devenu un vaste chaos, on gère tant qu'on fait du surf et on gère grâce à une boîte à outils diverses et l'important c'est d'y aller, nous n'avons pas le choix. Donc il y a une espèce de modernisme, si vous voulez, qui s'est emparé des politiques. Et on voit bien que tout ça arrive à un point limite aujourd'hui. Je n'ai pas parlé, pardon.
Oui, non, continuez.
Non, je n'ai pas parlé d'une dimension essentielle dans l'héritage de mai, qui était le troisième aspect de cet héritage, qui est ce que j'appelle la vision pénitentielle de notre héritage et de notre histoire, où on perd l'estime de soi, où le premier réflexe dans une partie de la population, notamment pour intégrer, et c'est quand même des associations, imaginons une association qui travaille avec des jeunes issus de l'immigration et qui veulent les intégrer à notre culture et qui leur disent écoutez, on va vous faire visiter le musée des peuples premiers, mais enfin avant d'y aller, on va vous dire combien on exploitait ces peuples. Je ne sais pas à quoi, alors cela étant dit, je suis bien évidemment, on l'aura compris, pour m'ouvrir à cette culture, mais m'ouvrir à partir de quoi?
Et c'est toujours l'idée de la référence dont vous parliez
au
début.
Oui, c'est-à-dire que il y a cette espèce de vision d'un monde chaotique issu de nulle part en direction de nulle part. Si je poussais à l'extrême cette vision chaotique où les dandys nouveaux, les rhéteurs de la postmodernité, les politologues qui saluent les artistes politiques, n'est-ce pas, qui font de la com, qui vont peut-être réussir à s'en sortir et qui commandent ça, dominent l'espace médiatique et l'espace public. Or précisément tout ça il y a une espèce de ras-le-bol qui monte dans la société. Simplement, ce « ça suffit » ne peut pas constituer une alternative. Voilà la question.
Un progrès pour l'avenir. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu plus de ce que vous montrez bien dans un de vos chapitres, c'est comment la victime, enfin vous parliez de politique pénitentielle, comment la victime a remplacé ou remplace le prolétaire, enfin en partie quoi. Oui. Alors d'où vient ce besoin de victimisation des peuples, des personnes, etc. Est-ce que c'est pas là aussi, est-ce que c'est dû à l'individualisme ou est-ce que c'est beaucoup, beaucoup plus grave encore que cela?
Je pense que la victimisation est inséparable du bouleversement que j'essaie d'analyser sur la période de 30 ans. Pourquoi ? Parce que avant, vous pouviez critiquer. Je prends par exemple la gauche et le mouvement ouvrier. Il y avait une critique radicale aussi. Mais elle était portée par une forme d'espérance en dépassement de l'existant vers une société meilleure. Ce qui a façonné quand même une dynamique historique. Quand cette dynamique historique est en morceaux, le ressentiment, la victimisation, l'autocentrement des individus sont importants. Et quand dans le même temps, il y a cette déculturation historique, c'est-à-dire le fait de ce que j'appelle un présent existentiellement flottant, je peux en dire deux mots, c'est-à-dire un présent existentiellement flottant individuellement et collectivement, puisqu'il n'est plus rattaché au passé, puisque l'héritage ne peut, si je pousse à l'extrême, ne peut plus rien nous dire, et l'avenir est ouvert sur de possibles régressions, une incertitude totale comme chaos, et que même les politiques vous disent on ne sait pas trop, etc.
Bon, vers quoi on va ?
Dans cette situation-là, vous avez un surinvestissement dans la réactivité du présent, un surinvestissement dans l'activisme communicationnel et managérial. Les politiques, on ne comprend pas ce qui se passe des politiques sans relier à ce cadre, à cette nouvelle situation historique, si vous voulez. Et je pense que ça concerne aussi la société. C'est pas les méchants politiques qui nous trahissent, etc. Les salauds qu'on lapide, n'est-ce pas? On lapide tout le monde aujourd'hui, les banquiers, etc. Sans s'interroger sur la nouvelle configuration historique hautement problématique dans laquelle nous sommes et dans laquelle il faut essayer de sortir, si vous voulez. Or, il y a un surinvestissement dans un présent à court terme. Le président de la République que nous avons est typique de ce que j'ai appelé la figure du manager, avec un surinvestissement, réactivité, etc. Mais quelle vision du long terme ? Ce cher et vieux pays, comme disait le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il devient ? Les politiques ne sont plus capables. Le rêve français de François Hollande, je l'ai regardé. Je ne dis pas que c'est tout à fait inintéressant, mais enfin, faire en sorte que des jeunes rentrent tandis que des vieux les prennent en charge, etc., avec des mesures économico-sociales. Première remarque, je ne suis pas du tout aubryiste, enfin, je sais pas comment on dit, Martine Aubry, mais enfin, quand elle dit que c'est une aubaine pour les patrons et que ça marche pas, je pense qu'elle a globalement raison. Mais au-delà de ça, fondamentalement, le rêve français n'est pas Obama qui veut, si j'ose dire. Et là, ce n'est pas véritablement un projet, ce n'est pas véritablement quelque chose qui peut redonner du sens au terme de signification historique, de dynamique nouvelle à créer. Donc on est véritablement en panne d'imaginaire dans ce moment-là.
Et alors j'ai envie de vous demander quels sont les lieux et les mécaniciens possibles.
Oui.
Parce que vous dites les politiques de droite comme de gauche n'arrivent pas à définir un avenir ou à le voir précisément, pas plus que nous. On est à la fin d'un cycle, je répète un peu des choses que vous avez dites. Alors où, j'ai envie de dire, dans quel lieu et avec quel mécanicien, je reprends votre formule, on peut analyser d'abord et puis refonder ou recréer une espérance pour un autre avenir ou un avenir qu'on verrait un petit peu plus.
Alors, juste un point
peut-être mais
avant.
Je vous en prie.
Sur l'activisme managérial et communicationnel, je dirais le surinvestissement dans le présent. Il faut savoir qu'il le modèle de la performance qui envahit l'ensemble des champs de l'activité sociale et qui est intériorisé par les individus, même quand ils sont au chômage d'une certaine façon, parce que ils sont évalués, il faut chercher, il y a une pression énorme. Cette pression se paie en retour, c'est l'autre face de notre présent, d'une recherche, d'une espèce de pacification intérieure qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi, où les mystiques à bon compte, si vous voulez, et les religiosités diffuses s'infiltrent, où contre le stress, on fait venir, je n'ai rien contre évidemment si ça peut aider, mais la méditation transcendantale, le yoga à l'intérieur même des entreprises, où l'important c'est d'à la fois être performant, mais en même temps être bien dans sa tête
être
et dans
zen
son
dans
corps.
Sa tête.
le tout dans un rapport pacifié avec la nature, ce qui nous pose d'autres problèmes sur le glissement religieux dans lequel nous, auquel nous assistons aussi aujourd'hui. C'est un autre problème. Donc voilà là, voilà d'une certaine façon la situation. Mécanicien, faut bien s'entendre. Je pense que nous sommes précisément dans une démocratie de mécaniciens. On choisit des hommes politiques, si j'ose dire, en fonction de leur capacité à réparer le moteur. Et encore, le moteur, on voit tous bien que le moteur ne marche plus. Le processus est vraiment en panne. Alors, on peut se disputer sur la façon de le réparer. Et puis, une dimension que j'estime absolument importante, qui est la dimension sociale, qui renvoie quand même à la justice sociale. Il ne s'agit pas de laisser passer ça. Mais la question de fond des finalités reste complètement en plan. C'est-à-dire, pour aller où ? On répare la mécanique, on est dans un avion, on demande à tout le monde d'être des citoyens mécaniciens. Si je poursuivais l'image, alors tout le monde a son mot à dire sur tout, sans avoir étudié la question, et dire, mais si vous ne proposez pas des choses pour réparer le moteur, vous n'êtes pas un vrai citoyen. Mais oui, oui, mais les citoyens ont aussi à réfléchir, surtout, on veut les amener où ? Et quel type de vivre ensemble on veut ? Quelle collectivité historique on veut ? Et tout ça est complètement négligé, si vous voulez. Donc pour moi, c'est au-delà de la mécanique. La mécanique est absolument en démocratie indispensable. La gestion de la complexité est indispensable. Mais l'inflation des boîtes à outils, la gestion de la complexité est symptomatique de l'ère du vide et de le vide des finalités. Et je dirais des espérances historiques, d'une certaine
alors,
façon.
Je prends notre image. Alors, les mécaniciens sont importants, mais ne suffisent pas, si je vous écoute.
Sinon, ils tournent
et
à vide.
Voilà, ils tournent à vide. Mais alors, quel est le concepteur de l'avion qui peut, lui, concevoir un avion différent qui nous porte vers un futur différent. Je remonte d'un cran. Hein. Alors, quel est le existent-ils des concepteurs d'avions différents et comment les former, où sont-ils formés, où les chercher, où les trouver ?
Alors, avant le concepteur, il y a d'abord la question du pilote qui était d'ailleurs la fonction politique de l'État. Ou notamment sous la Ve République et plus largement, la fonction du président de la République n'était pas d'être un mécanicien ou avec outils multipris, c'est-à-dire ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères, encore que ça fasse partie des prérogatives sous la Ve du chef de l'État, mais ministre de la Santé, qui d'ailleurs, au point de vue constitutionnel, passe par-dessus le Premier ministre. C'est si bien qu'on est dans une décomposition aussi institutionnelle de la Ve. On voit bien que tout ça est en train, là aussi ne fonctionne plus. Alors quel est le pilote dans l'avion ? Je pense que le pilote ne sait pas où il va et navigue au gré des réactivités. Quelle est la bonne réactivité du président de la République ? Il est celui qui réagit le plus vite et qui répare le moteur en faisant au mieux avec, parce que c'est à peu près ça. Et je suis le meilleur dans ce domaine-là. Regardez comme je suis fort, alors que l'autre, il est pas bon, quoi. Hein. Donc ce genre de concurrence électorale, peut-être peut-on y voir une forme incontournable de la concurrence démocratique entre les partis, les hommes, etc. Mais enfin, elle laisse, je pense, c'est du moins mon hypothèse, une grande partie des citoyens insatisfaits. Alors, la question, comment repenser tout ça ? Premièrement, il faut distinguer la sphère politique de la sphère de la société dans une démocratie. Je pense que le travail de reconstruction doit se faire en parallèle. Pour moi, je me situe avec politique autrement dans une optique évidemment qui se situe du côté de la société. Je ne suis pas un homme politique. Je pense qu'il y a des lieux à l'intérieur de la société, votre radio, d'une certaine façon, en est une, mais
c'est
il y a aussi...
C'est gentil de nous dire ça.
Non, mais je participe aussi à pas mal de choses, je suis interrogé, je vois que, au sein même de la société, il y a des lieux confessionnels, mais pas simplement confessionnels. Il y a des revues, je pense à des revues comme Le Débat, je pense à des revues comme Commentaire, qui d'une certaine façon maintiennent un certain type d'exigence, soit questionnement spirituel, qui est votre particularité, votre spécificité. Moi, en ce qui me concerne, c'est l'exigence, j'allais dire, qui évidemment s'ouvre sur ces dimensions-là, mais qui est une exigence intellectuelle de rigueur. Il faut préserver, dans le monde chaotique dans lequel nous sommes, des exigences d'un certain niveau de qualité de la parole et de la recherche et de la réflexion en dehors de toute forme de moralement ou de politiquement correct. Moi, j'insiste, si vous voulez, sur un besoin que je pense exister au sein même de la société pour une partie des citoyens, de pouvoir parler et de réfléchir sans se soucier j'allais dire des camps, dirait-on, médiatico-politiquement corrects, pour dire les choses. C'est-à-dire que quand ils parlent, quand ils s'interrogent, même avec des questions naïves, sur des grandes questions qui touchent à l'avenir de notre société, de notre pays, et doivent le faire en toute liberté, et qu'il n'y a pas de sujet tabou. Malheureusement, la gauche
manque de... Il n'y a pas d'opinion qu'il faut défendre, quoi.
Alors, attention, c'est autre chose. Il n'y a pas de sujet tabou dans l'ordre de l'examen.
Oui.
L'immigration n'est pas un sujet tabou et il faut entendre les arguments des uns et des autres. Je me réclame, évidemment, de l'idéal des Lumières. Tout peut être examiné à l'aune de la raison et doit pouvoir être fait en toute liberté intellectuelle.
Mais vous dites que la politique et la philosophie des Lumières sont très discréditées.
Aujourd'hui, oui. Pourquoi?
Parce qu'il faut y revenir, donc. C'est ça que vous
dites. À mon avis,
oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a l'émotion, les affects et la dénonciation victimaire. Précisément, ce n'est pas ça la citoyenneté active. Or, la façon dont on valorise, notamment à gauche, le mouvement social, vous en avez pas eu le temps de répondre, mais vous avez fait allusion, est un vaste conglomérat de tout, avec des choses qui, certes, peuvent être intéressantes, mais une confusion extrêmement grande. Écoutez, indignez-vous, c'est très gentil, mais c'est l'indigence de la pensée. Il n'y a rien, c'est le vide. Et il suffit pas, dans un éthos décomposé dans lequel... dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'en appeler à la révolte. Ça peut déboucher sur tout et n'importe quoi. Veut-on revoir les sans-culottes? Là, il y a une responsabilité de la gauche et les sans-culottes par le web citoyen où on dénonce, on se lâche. Et certains vont vous dire à gauche, je lisais encore un article du Monde aujourd'hui qui vante les nouvelles sociabilités que constituent les réseaux, les nouvelles formes d'intervention qu'Internet rend possible. Certes, il y a bien une dimension de réseau, mais enfin... Allez voir sur Internet comment les gens se lâchent, passez-moi l'expression, lapide et le salaud, quoi. On le dénonce et on se lâche, etc. Le tout sous l'anonymat. Si ça s'appelle la transparence et la politique faite dans l'entre... Et je m'interroge sur la gauche avec beaucoup d'inquiétude en lui disant attention. Vous faites du surf sur quel type d'éthos de la société? Vous appelez quoi exactement? Comment vous allez gouverner si vous flattez ça? Parce que c'est quelle passion? Vous jouez sur quelle passion dans la société? C'est ça que je, si vous voulez, que je, excusez-moi l'expression, que je n'arrive pas à pardonner à la gauche cette façon de faire, parce qu'elle joue sur le ressentiment, tout en prenant le pouvoir du, c'est pas grave, on peut faire du surf là-dessus du moment qu'on va arriver au pouvoir avec ça. Mais comment va-t-elle gouverner avec ça? Voilà, j'aimerais que les politiques et le Parti Socialiste en particulier aient un discours clair. Il ne l'aura pas. Malheureusement, je pense qu'il ne l'aura pas.
Alors nous revenons pour quelques minutes encore avec Jean-Pierre Le Goff à La Gauche à l'épreuve. Nous avons parlé de beaucoup de choses, pas uniquement de la gauche, mais de notre société en général. Et je voulais vous poser une question que vous abordez dans ce livre. Vous dites que l'engagement éthique ou l'engagement humanitaire, ou les deux réunis, sont très intéressants, mais ne sont pas des engagements politiques au sens fort du mot. Et est-ce que là, dans notre société, y a-t-il des ressources de ce côté-là, ou faut-il les chercher dans d'autres plans de la société?
Je pense que je poserai la question des ressources dans les termes suivants. Où sont les réserves d'humanité dans une société qui paraît, comme je disais, dont l'étau s'est décomposé? Elles existent. Elles existent dans les associations caritatives, le bénévolat. Mais là aussi, attention, excusez-moi, il faudrait faire le tri. Il y aurait une épreuve de vérité sur les associations, parce que j'entends également la gauche vanter, à mon avis, de façon un peu inconsidérée, le renouveau associatif. Enfin, il y a des bénévoles, heureusement, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, mais il y a des associations, vous enlevez les subventions, vous trouvez plus beaucoup de bénévoles. Et les think tanks et ceux qui tournent autour des partis politiques, il y a beaucoup de professionnels de la politique, si vous voulez. Hein,
qui sont dedans.
Qui sont dedans, c'est pas un reproche, mais c'est pas une dynamique autonome. Bon. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des ressources, des réserves d'humanité. Je dirais, avant même les associations, dans certaines associations, pas toutes, hein, parce qu'il faudrait regarder, examiner, et encore une fois, faire le tri. Mais ceux qui sont confrontés, par exemple, dans le secteur de la santé, aux hôpitaux, à la mort, à la maladie, au tragique de l'existence, bon, ce sont des gens qui sont pas dans la bulle, si vous voulez, médiatico-politique, cette espèce d'angélisme. Donc, ce sont des gens qui ont des réserves, qui sont confrontés au réel, qui s'engagent, avec qui vous pouvez discuter, et qui subissent de plein fouet une bouillabaisse managériale d'injonction au changement, et qui se révoltent, mais qui n'arrivent pas à penser la chose. Ça, c'est pour moi, ce sont
donc
des
réserves. Donc, ils sont dans l'action, et il faudrait penser avec eux.
Alors,
ou les aider.
Alors, pour moi, politique autrement, c'est précisément le lien entre des gens qui sont en situation d'action et de responsabilité, c'est la différence avec un club parisien, si vous voulez, avec une exigence de réflexion exigeante,
et sans
qui permettent d'éclairer les pratiques, et ensuite chacun est libre de se positionner. Mais on a besoin de ce recul éclairant, réflexif et critique, en même temps qu'on a besoin des gens qui sont engagés dans l'action.
Donc voilà, action et réflexion en même temps, quoi.
Voilà. Mmh. En même temps, en sachant que c'est des lieux différents. Vous ne pouvez pas
faire les deux
à
au même endroit.
Autrement, on ne demande pas, si vous voulez, la carte des partis politiques ou dans quelle association, libre à chacun, en sachant que les extrémistes sont jetés, si vous voulez. Mais il faut, c'est des lieux de ressources intellectuelles. Et notamment sur un point fondamental qui est retisser le lien avec les nouvelles générations, c'est-à-dire retisser, reprendre ce que, dans notre héritage, constitue autant de potentialités inexploitées, pour reprendre un terme de Paul Ricoeur, qu'il faut aujourd'hui retravailler, refaire surgir, voir comment elles s'appliquent. Là, c'est véritablement retravailler sur l'éthos de la société, et ça prendra du temps. On voit qu'il y a ces réserves, elles sont dispersées dans la société. Tout ça ne débouche pas encore sur une nouvelle dynamique historique. Mais on voit que l'ancien est quand même en train de finir. Et on est dans un présent très problématique. Je vous parlais de l'héritage impossible de mai 68, mais en même temps...
Présent ambivalent, vous avez dit.
Oui, ambivalent, parce qu'il y a ça, mais en même temps, il y a des retours réactifs, des retours du traditionnalisme, des retours qu'on n'aurait jamais cru possible il y a quelque temps. Et le présent est fait de ce bric-à-brac, de post-68-art ou de nihilisme un peu affaissé, qui n'est plus le nihilisme actif des années 70, si vous voulez, qui est vraiment affaissé, mais qui n'en finit pas de détruire un certain nombre de choses, et des réactions traditionnalistes. On le voit aujourd'hui, tout le monde ressort les bannières, tout le monde essaie de ressortir sa communauté avec une guerre possible des communautés entre eux. Bon, voilà, on est dans ce présent, et les jeunes eux-mêmes vivent dans un monde largement décomposé, où ils sont obligés de bricoler leurs propres identités dans le domaine de la religion, c'est pareil. Il y a un peu de bouddhisme, un peu de catholicisme, de christianisme. On ne sait pas, avec des mystiques qui marchent sur les affects, sur ce brancher direct, si vous voulez. Hein. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. Dans ce monde-là, l'exigence doit être forte, si vous voulez. C'est parce que le monde est compliqué, c'est parce que le monde est chaotique, qu'il faut revenir sur la nécessité de colonnes vertébrales qui vont intégrer la complexité et la diversité. La façon dont on forme aujourd'hui est l'inverse. On fait du surf et dans la gestion de la complexité, alors qu'on n'a plus les fondamentaux. ou le repère structurant qui permette d'intégrer cette complexité et de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est précisément la limite aujourd'hui, je dirais, des politiques, mais plus largement.
C'est ça. Donc il faut aller dans des clubs comme le vôtre et essayer de réfléchir à tout ce qu'on fait au niveau de l'action et pas uniquement faire de l'éthique et de l'humanitaire sans savoir où on va. C'est ça que j'ai compris.
Mais vous avez bien compris. Ben,
merci beaucoup Jean-Pierre Le Goff. Vous avez compris qu'on pourrait encore parler longuement de votre livre. Ça s'appelle donc « La gauche à l'épreuve, 1968-2011 », Jean-Pierre Le Goff. Et c'est donc chez Perrin, aux éditions Perrin, dans la collection « Tempus », si on veut prononcer la latine. Et c'est un petit livre très dense, comme vous l'avez compris. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt sur Fréquence Protestante.